Hier soir, sur la table de nuit, je retrouve ce livre pour la jeunesse d'Alain Serre, illustré par Chloé Fraser aux éditions Rue du Monde. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas rangé dans la bibliothèque. Alors je le relis, c'est très court et maintenant je sais pourquoi. Voilà ce qui est écrit. Peut-être que le monde n'était d'abord qu'une paisible et longue nuit. Peut-être que du bleu a brusquement jailli, que beaucoup de bleu s'est répandu, et que sous la lumière quelque chose a peu à peu germé. Peut-être que le monde n'était d'abord qu'une paisible et longue nuit. Peut-être que l'eau a alors animé le monde. Ou bien peut-être que le monde n'était qu'une gigantesque tache d'encre noire en mouvement. Et soudain, le feu s'est dessiné, puis a coulé. Et peut-être que la pluie a métamorphosé sa chaleur. Et le monde s'est alors mis à vibrer, à pousser, à sauter. Ou peut-être que le monde, en ces temps reculés, n'était que violence. Peut-être que lumière et obscurité grognaient d'une même voix sourde. Et peut-être qu'un matin, le ver a poussé son premier cri, qu'il a livré ce jour-là un grand combat et qu'il a triomphé en faisant naître la vie. Ou peut-être que le monde n'était qu'une traînée d'étoiles noires, que l'une d'elles, en faisant son nid, s'est changée en soleil, qui patiemment a couvé l'œuf du temps pour donner définitivement naissance à toutes les couleurs de la vie et à la grande histoire qui a suivi, l'histoire fragile que nous gardons à jamais au fond des yeux. Peut-être que le monde va nous donner envie d'inventer avec lui, pendant des milliards d'années encore, des milliards d'autres sublimes histoires. Ou bien, si nous continuons à mal le caresser, peut-être que le monde...
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un observateur attentif de notre planète, un acteur du monde et un acteur tout court auquel vient de rendre hommage le 44e festival du film américain de Deauville. Bonjour Morgan Freeman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Dans quel monde est-ce que vous avez l'impression qu'on vit?
That's a hard one to try.
C'est une question difficile. Il y a tellement de facettes différentes dans nos vies, dans le monde dans lequel nous vivons. Et dans certains endroits, ici par exemple, la vue est belle, les gens sont calmes, heureux apparemment. Et dans d'autres endroits du monde, c'est le chaos total, la souffrance et la mort. Et dans d'autres endroits encore, on se concentre quasi totalement sur ce qui nous divise.
Évidemment, je pense à notre planète. Quel avenir est-ce que vous lui voyez, vous?
D'après moi, la planète va continuer. Elle n'a pas besoin de notre présence pour survivre. Nous représentons probablement plus un danger pour cette planète que nous en sommes vraiment conscients, mais il serait utile pour nous d'être conscients que la planète va continuer.
Je vous pose évidemment la question parce que je connais votre intérêt, votre engagement pour les planètes, pour l'univers, pour l'environnement, pour la Terre. Je pense à vos documentaires, mais aussi pendant la COP21, il y a 3 ans, à Paris, à votre voix, dans un spot publicitaire dans lequel vous disiez « c'est maintenant qu'il faut agir ». Comment vous expliquez, Morgan Freeman, que 3 ans plus tard, beaucoup s'alarment sur le fait qu'on en est presque toujours au même stade?
I cannot explain that.
Je ne peux pas l'expliquer.
The greater number of scientists have said.
Le plus grand nombre de scientifiques a dit au sujet du changement climatique qu'il est dû en grande partie à ce que nous avons mis dans l'atmosphère. Et puis, scientifiquement, la Terre est un accident. En observant l'espace, et aujourd'hui, on peut voir très, très loin. On ne voit rien d'autre qui ressemble, nulle part, à des années-lumière dans l'univers. Il n'y a pas d'autres endroits tels que celui-ci. Nous avons une tendance, en tant qu'être humain, à résister à l'idée de ne pas exister, de ne plus exister. Tout le monde a un paradis. Chaque culture a un paradis, quelque part. On ne meurt pas. On part pour quelque part. Et on n'a pas suffisamment peur de ce que nous faisons probablement à notre habitat.
Je pense à la place des États-Unis aussi, le retrait des États-Unis des accords de Paris. Sans les États-Unis, est-ce que le changement est seulement possible?
Yes.
Oui.
Yes. I don't think we're going to have to
rely on. Je ne pense pas qu'il fasse faire confiance ou se reposer sur un seul groupe. Il n'y a pas qu'un groupe qui représente l'humanité. Nous devons tous le faire. Ça serait très utile pour l'espèce humaine.
Quel regard est-ce que vous portez, Morgan Freeman, sur votre pays aujourd'hui, particulièrement depuis l'élection de Donald Trump?
Je ne veux pas parler de ça. Non.
Est-ce que ça reste un pays pour vous où tout semble possible? Est-ce que vous croyez encore au rêve américain dont votre parcours a fait l'une des incarnations?
Yes.
Oui.
My whole belief system.
Tout mon système de croyance est déployé autour du rêve américain. C'est-à-dire que tout un chacun devrait avoir la possibilité de prosperer, de bien vivre, d'avoir une éducation, de gagner sa vie. Et je crois que ce rêve va persister. Nous passons à travers tous ces changements en raison de notre système de gouvernement. C'est la même chose en Europe. Notre système de gouvernement est fait de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de dictateur. Personne ne peut rester en place trop longtemps et croire qu'il peut répondre à tout. Finalement, le vote va vous démettre. Il y en aura quelqu'un d'autre pour faire avancer les choses vers ce dont on pense avoir besoin pour survivre au quotidien.
Beautiful.
Beautiful. Unethical. Dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone. This is wrong.
A dark night.
This was found on the wall behind the refrigerator, written in Greece. There are seven deadly sins, Captain. Seven.
La gourmandise.
Vite, venez voir ça!
L'avarice.
On touche à rien!
La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. Sept.
Vous avez déjà vu une chose pareille?
Non.
Seven.
I bet you're wondering why you're here. I bought to get off your job.
Who are you?
Bruce. I'm God. When you leave this building, you will be endowed with all my powers.
Bruce Almighty.
Bruce Tout-Puissant.
He gave the people the courage to fight. The one man who stood for freedom became a legend. Robin Hood, Prince of Thieves.
And the Oscar goes to Morgan Freeman, A Million Dollar Baby.
I especially want to thank Clint Eastwood for giving me the opportunity to work with him again. This was a labor of love.
David Mandela takes office in Pretoria.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
Une carrière dantesque, Morgan Freeman, près de 100 films, et pourtant une carrière qui a démarré sur le tard par beaucoup de second rôles. Vous dites qu'au début des années 80, des rôles intéressants, il y en avait très peu. Alors, à quel rôle est-ce qu'un acteur noir pouvait prétendre à l'époque?
Il fallait s'accrocher, continuer de passer des auditions. Dans les années 80, au début, j'étais sur scène, principalement. Il y avait là des rôles intéressants. Shakespeare, des pièces originales. Miss Daisy et son chauffeur étaient représentés au théâtre à l'époque.
C'est vrai.
Yeah. So that period was to me when I look back, I say.
Et quand je regarde en arrière, je me dis que c'était mon plan de route, ma période d'apprentissage, quand j'affûtais mes talents. Et puis à la fin des années 80. Ça a changé de braquet.
Et dans quelle mesure est-ce que l'industrie cinématographique s'est ouverte à tous ceux qui n'étaient pas blancs, qui ne sont pas blancs?
Dans les années 70, il y a une période que l'on a appelée la blaxploitation. C'est à cette époque que l'on a tourné tous ces films, Shaft, Cleopatra Jones. Ça a fait de l'argent. Et ça, c'est le moteur d'Hollywood. Si ça rapporte de l'argent, c'est que c'est bon. Et la seule couleur qui compte véritablement à Hollywood, vraiment, c'est la couleur de l'argent.
En tant que jeune spectateur, Morgan Freeman, vous vous êtes posé la question de la représentation des personnes noires au cinéma?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
remark often.
Mais il faut voir que souvent, les Noirs qui apparaissaient à l'écran, c'était des comédiens, principalement. Que vous interprétiez une domestique, un chauffeur, un maître d'hôtel, l'essentiel, c'était d'être drôle, et ça vous permettait de travailler. Et puis, il y a une sorte de miracle. Un acteur comme Sidney Poitier a émergé. Et beaucoup d'autres acteurs sont apparus avec lui. Je pense, par exemple, à Harry Belafonte.
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que malgré cette difficulté à s'identifier à ce que vous voyez à l'écran, ça ne vous a pas empêché de rêver d'être comédien et de le réaliser, ce rêve. Ça a tenu à quoi ?
Non, non. En fait, oui. Mais je l'ai fait de la façon dont on réalise ses rêves, c'est en continuant le combat, en continuant d'essayer. À plusieurs reprises, j'étais arrivé à la conclusion que ça n'allait pas le faire, qu'il me faudrait trouver un emploi pour payer le loyer et pouvoir manger, n'importe quel job. Mais à chaque fois que j'étais sur le point de le faire, quelque chose se produisait et j'étais encouragé à garder le cap. Et finalement,
il en a fallu du courage. À quoi ça tient le courage pour vous ?
Je dis à mes enfants, à tous les enfants, si vous voulez vous envoler, il faut avoir la volonté de sauter de la falaise. Il faut du courage. Il faut avoir foi en soi, sérieusement.
Celle qui n'est pas très courageuse et qui n'a pas vraiment foi en elle-même dans cette émission, peut-être la connaissez-vous, Morgane, c'est la culture. Et son actualité si peureuse, coire des froussardes, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 13 septembre ?
Le métissage, il se fait tous les jours, enfin, depuis des siècles, il existe déjà. Je me souviens, une fois, je parlais d'un musicien qui s'appelle Hassan Kouban, c'est un chanteur soudanais, enfin du Caire, enfin, en disant « oui, ça c'est génial », etc. On dit « ouais, mais c'est pas intéressant, c'est du folklore ». Et quelques jours après, il y a eu Peter Gabriel qui a parlé, il y a eu une interview dans Le Monde, en parlant de ce même type, en disant « voilà, c'est l'une des plus belles voix que j'ai jamais entendues ». Le lendemain, les mecs, ah ouais, c'est génial, parce que c'était un Anglais qui l'avait dit. Ça m'est arrivé aussi pour le rail, ou Famico, il y a des années, parce que j'avais envie de sortir le rail, j'avais présenté à des boîtes, etc., en me disant, oh non, ça marche pas. Et une fois que les Anglais l'ont fait, hop, c'est marrant. Pour certains, le métissage, ça fait peur, ça dépend d'où il vient.
Rachid Tah, 28 septembre 1958, 12 septembre 2018. Cette fois, ça passe. Hier, les députés européens ont voté la réforme du droit d'auteur, 2 mois après l'avoir rejeté une première fois. Le projet pour lequel s'étaient engagées Françoise Nyssen et près de 200 personnalités françaises prévoit que les plateformes comme YouTube ou Spotify rétribuent mieux et plus les artistes créateurs de contenu. Il est aussi question de créer un droit voisin du droit d'auteur pour les éditeurs de presse.
La situation est encore très compliquée ici au Musée National, à la Quinta de Boa Vista, au Rio de Janeiro.
Résurrection à Rio. Après le terrible incendie qui a ravagé le Musée National de Rio de Janeiro, les étudiants en muséologie ont décidé de créer un panthéon virtuel pour faire revivre les œuvres et les objets détruits par les flammes. Ils auraient déjà reçu près de 7000 mails avec des photos et des vidéos du musée avant la catastrophe, pour que l'héritage ne soit pas détruit 2 fois, une fois par le feu, une autre par l'oubli.
Nous mourons pour que cessent les massacres et la corruption. Nous mourons pour obtenir pain, liberté et justice sociale. Et nous mourons pour vous. Vous pouvez rester chez vous. Demain, ils vous feront ce qu'ils nous ont fait.
La ville gagne toujours. Omar Rossi, le romancier et cinéaste anglo-égyptien Omar Robert Hamilton, a reçu hier le prix de la littérature arabe 2018 pour La ville gagne toujours. Premier roman magistral sur la révolution et la contre-révolution égyptienne en 2011. Fervent défenseur de la démocratie, Omar Robert Hamilton avait créé le collectif Mozirin pour documenter le soulèvement, filmer la répression sanglante de la presse Tahrir aussi. Cœur avec les doigts.
Morgan Freeman, invité exceptionnel de Boomerang ce matin. On parlait, Morgan, de votre rêve de devenir comédien. Ce rêve, il est né comment, en fait ?
Tout simplement en allant au cinéma. J'étais enchanté par le cinéma quand j'étais enfant. J'allais au cinéma l'été quand il n'y avait pas d'école. J'allais au cinéma tous les jours. Tous les jours, il y avait 3 films par jour dans le quartier à côté d'où je vivais alors à Chicago. Et si vous trouviez des bouteilles, à l'époque c'était des bouteilles en verre recyclable, vous pouviez les rapporter dans un magasin pour toucher la consigne. Et les tickets pour le cinéma coûtaient 12 centimes. Et 6 bouteilles comme ça, ça suffisait pour acheter un ticket. Donc j'étais tout le temps à la recherche de bouteilles. Aucune bouteille ne m'échappait si elle était consignée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer l'idée que c'était ça que je voulais faire.
Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous alliez chercher au cinéma?
Eh bien, tout d'abord, le divertissement. Il y avait autre chose aussi. C'était ce rêve de m'imaginer moi-même en héros. Pas de jouer le héros, mais d'être véritablement un héros. J'ai porté un pistolet à amorce sur la hanche jusqu'à l'âge de 15 ans. Je me levais le matin, première chose, en été, pas pendant les jours d'école, mais l'été, la première chose que je faisais, je mettais mon pistolet sur la hanche et je sortais chercher des crosses.
Et ces salles de cinéma, Morgan Freeman, quel souvenir est-ce que vous avez d'elles? Une odeur, un parfum, une couleur, une atmosphère?
The smell, popcorn.
L'odeur, popcorn. Même maintenant, on va au cinéma, c'est l'odeur qui vous ramène à votre enfance. Vous entrez au cinéma et il y a cette odeur de popcorn.
Sur grand écran, quel a été votre premier choc cinématographique? La première fois que vous vous êtes dit, ça, c'est du cinéma. La première fois que vous avez été soufflé.
Je me souviens du premier film qui m'a mis dans cet état. Je me souviens du premier film que j'ai vu et qui m'a effrayé. C'était King Kong, l'original. C'est le premier film que j'ai vu.
Attention all stations. Kong is going west. He is making for the Empire State Building. Stand by for further reports.
There's one thing we haven't thought of.
What?
Airplanes. If he should put a hand down, and they can fly close enough to pick him off without hitting her.
You're right. Plane.
Call the field.
Oh, boy, what a story.
Il m'a simplement terrifié. Mais je n'ai pas vu beaucoup du film cette première fois. Je l'ai revu deux ou trois fois. Mais à cette première vision, j'ai passé la plus grande partie du temps sous le fauteuil.
Vous aviez peur comme ça?
J'étais terrifié.
C'est pas sur grand écran, vous l'avez dit, que vous avez fait vos premières expériences de comédien, mais sur les planches du théâtre de votre école, Morgan. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes venu à fouler les planches d'un théâtre?
J'avais 8 ans. On jouait une petite scénette intitulée Little Boy Blue. C'est l'histoire de ce petit garçon qui est censé garder les moutons, mais il ne le faisait pas. Il s'était endormi sur une botte de foin. Il y avait un petit poème comme ça. Little Boy Blue, fais sonner ton cor. Les moutons sont dans le pré et les vaches sont dans les blés. Où est le petit garçon qui garde les moutons? Dans la botte de foin. Il dort comme un sonneur. Ça a été monté en une petite pièce de théâtre et j'étais le petit garçon bleu endormi dans les foins.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti sur scène?
Le pouvoir. J'ai toujours senti le pouvoir. Quand je monte sur scène, je suis là.
Vous avez su tout de suite que votre vie serait dédiée à la fiction, à raconter des histoires?
Non.
Non. Mais j'ai commencé à lire à l'âge de 8 ans environ. Mais vraiment, à lire. J'avais une carte de bibliothèque à 8 ans. Je crois que les livres sont probablement la source d'inspiration la plus importante à laquelle un acteur peut s'abreuver. Parce que cela vous donne le sens de ce qu'est une véritable histoire. Et au début du cinéma, l'écriture était de loin supérieure à ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas pour dire du mal des auteurs d'aujourd'hui, mais ils sont trop stressés. Il y a tellement de canaux, tellement de demandes, tellement de pression sur ceux qui y écrivent. Il est difficile de prendre son temps pour écrire, y revenir, réécrire, Parce qu'on veut tout tout de suite.
Cet apprentissage que vous racontez, qu'est-ce qui fait un bon acteur pour vous ?
La crédibilité. Il faut croire. Si vous y croyez, alors moi je croirai.
Ça vous donne encore le frisson, autant que les premières fois ?
Non, j'ai jamais eu le trac. Je suis vraiment là où je dois être.
On va rester chez vous, alors, avec un disque qui va vous plaire, je suis sûr. On va se mettre un petit Al Green, parce que je sais que vous adorez Al Green.
Un de mes favoris, c'est Let's Stay Together.
Alors restons ensemble, Let's Stay Together. Vous êtes sur France Inter avec Morgan Freeman. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Avec lui, impossible de savoir sur quel pied danser. Tantôt impassible, tantôt à se fendre d'un sourire jusqu'à ses oreilles percées. Avec deux boucles dorées, il fait la pluie et le beau temps. Grand, le cheveu court et blanc, l'œil malin, coquin et de si grandes mains. Jeu de main, jeu de vilain avec sa chemise très élégante, bleue et blanche. Ce matin, l'immense acteur américain Morgan Freeman, invité de Boomerang. Et Morgan, ce qui frappe chez vous, plus que chez beaucoup d'autres comédiens, c'est évidemment la voix. Quel genre d'outil est-ce que c'est pour vous, votre voix?
Actors, they only have a few.
Les acteurs n'en ont que très peu. Les yeux, très importants.
And your voice.
Et votre voix.
Those are the things you
ce sont là les outils qui peuvent faire le meilleur
good or damage with.
Ou le moins bon.
Ralph
Fiennes, dans Le patient anglais, on le voit d'abord comme quelqu'un qui est très vivant, et puis on le voit ensuite comme un quasi-cadavre. Et il joue de façon tout aussi exaltante dans les deux cas.
Votre voix à vous, Morgan, quand est-ce que vous avez su qu'elle avait un pouvoir d'attraction, de séduction ?
Je ne l'ai jamais senti.
Les gens vous le disent tout le temps.
Les gens me le disaient, mais ça ne veut pas dire que je le sens.
Pour moi, c'est surtout une voix qui est faite pour lire, pour raconter des histoires, des contes, et ça vous arrive, je crois.
Well, I have children.
J'ai des enfants.
Mais aussi à d'autres, vous avez enregistré des cassettes.
Right. The moon on the breast of the new-fallen snow
gave the luster of midday to the objects below, when what to my wondering eyes should appear but a miniature sleigh and 8 tiny reindeer. And then in a twinkling I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my head and was turning around, down the chimney St. Nicholas came with a bound. I heard him exclaim ere he drove out of sight, "Happy Christmas to all, and to all a good night."
C'était juste un programme de lecture. Les acteurs lisaient ces histoires, des livres pour enfants. Je l'ai fait, Jack Nicholson l'a fait. Beaucoup d'autres que je connais ont lu ces livres. Quand j'étais sur Electric Company, j'ai commencé à en prendre conscience parce que lorsqu'on parle dans un micro avec un casque sur la tête, c'est la meilleure façon de s'entendre et de développer ce qui doit l'être dans sa façon de parler. Mais quand j'étais à la fac, moi j'ai dû prendre des leçons parce que je venais du sud profond et j'avais un accent très très prononcé. J'ai pris des cours de développement de la voix et de diction. Les cours de développement, c'est ce qui vous aide à créer cet instrument. Et la diction, eh bien, c'est l'autre versant.
Et vous travaillez encore votre voix ?
Oui, il y a des exercices. L'un d'entre eux, tout le monde peut le faire, c'est de bâiller. Et ça, ça vous relaxe toute cette zone autour de la gorge. Et la plupart des gens parlent un ton trop haut en raison de la tension dans ces deux zones.
Ne me lancez pas sur le sujet. Quelle histoire, quel conte est-ce qu'on vous racontait à vous ?
Non, les contes pour endormir les enfants, je les ai entendus à la radio.
C'est vrai ?
Oui.
C'est important la radio pour vous ?
Ça l'était. C'était... Tout de suite après les livres, la meilleure des choses, c'était avant la télé. Et ce qui est superbe avec la radio, il en va de même pour la lecture, c'est que ça enflamme l'imagination, alors que la télé, ça l'éteint.
À cause de l'image ?
Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à travailler. Votre imagination est au repos pendant que vous travaillez et que vous regardez la télé. Mais quand vous lisez un livre, vous devez recréer chaque scène. Les couleurs sont celles que vous créez, parce que tout est dans votre imagination. Une grosse différence. À la radio, vous créez vos propres images.
J'espère, Morgan Freeman, qu'on sera parvenu à créer de l'imaginaire et à... nous inviter tous à se raconter des histoires avec vous ce matin. Merci infiniment, Morgan Freeman, d'être venu faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète, le très libre Michel Zlotowski. On a hâte de vous revoir au cinéma.
Je ne prépare rien pour l'instant, mais je joue dans un film qui va sortir en décembre, intitulé Nutcracker, le casse-noisette, un film Disney.
Pas innocent.
Oui, ça va être très intéressant. Je viens de terminer un film avec un excellent réalisateur du nom de George Gallo, intitulé The Poison Rose, avec John Travolta. Et maintenant, je me repose sur mes lauriers.
Et jamais vous vous arrêterez.
Non. Pas de mon fait.
Tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. Allah aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en, mon cœur, mon cœur. Est un pendule, mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. We'll be right back.
que l'enfer entier est à l'autre bout. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là quelque part, non, ne te retourne pas. Rien n'y suis-moi mon cœur, les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh Ginger, le sol se nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
Chatterton sur France Inter et c'est l'heure de Sonia de Villers,
oui.
Les médias.
Il pleut sur la maison de la radio.
Tout à fait.
Moi, je suis contente, j'en avais marre de cet été éternel.
Voilà. Super, bon bah écoutez...
Si vous êtes content de la pluie aussi, dites-le moi, voilà.
Je vous embrasse.
Salut Augustin.
À demain.